Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. En cette période de rentrée scolaire et universitaire, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui l'École nationale des chartes, grand établissement d'enseignement supérieur situé au cœur de la Sorbonne, qui forme à la fois des chercheurs et de futurs conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, en leur dispensant un enseignement de haut niveau. Pour nous éclairer sur cette grande école, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio son directeur, M. Jean-Michel Legnaud. Monsieur Legnaud, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur de l'École nationale des chartes depuis septembre 2011. Vous présidez aussi le conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine et vous êtes membre du conseil supérieur des archives, ainsi je crois que des collèges régionaux du patrimoine, des sites d'Île-de-France et de Poitou-Charentes. Sorti de l'École des chartes en 1976, vous êtes aussi diplômé de l'École pratique des hautes études, docteur d'État en droit, et vous êtes habilité à diriger les recherches en lettres et sciences humaines. De 1977 à 1990, vous avez exercé différentes fonctions au ministère de la Culture, puis avez été nommé en 1990 directeur d'études à l'École pratique des hautes études dans la section des sciences historiques et philologiques. En 1996, vous êtes nommé professeur à l'École des chartes. Vous êtes un spécialiste éminent et reconnu d'histoire du patrimoine et d'histoire de l'art des 19e et 20e siècles. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages sur l'architecture, le patrimoine et l'histoire religieuse de l'époque contemporaine, dont plusieurs ont obtenu des prix de l'Académie française, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques. Parmi ces ouvrages, très nombreux, je citerai « Les cathédrales du XIXe siècle » en 1993, « Les bâtisseurs d'avenir », »,« Portrait d'architecte », »,« Charles Garnier », »,« Le palais de l'Institut », »,« L'art nouveau » et en 2012, cette année donc, « La basilique Saint-Denis ». Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue « Livraison d'histoire de l'architecture ». Et vous dirigez la publication des procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts, dont 8 volumes sont parus à ce jour aux éditions de l'École des Chartes et dont 4 sont à venir. Monsieur Legnaud, je souhaiterais donc pour nos auditeurs que vous nous éclairiez sur cette école, école d'excellence, école ancienne créée je crois en 1821. Cette école, École nationale des chartes, a une mission originale au service de l'histoire et du patrimoine. Quelle est cette mission? Cette mission a-t-elle évolué au fil du temps? Et quels ont été les principaux jalons de cette histoire, les principales évolutions de l'école depuis le XIXe siècle?
D'abord, observez que l'école a été fondée sur le principe de la grande école, telle qu'elle était organisée en France à partir de la Révolution, comme l'école normale ou l'école polytechnique, et non pas au sein de l'université. Elle a été placée assez immédiatement, dans le fond, sous la protection de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ses élèves étant formés initialement, principalement pour servir de collaborateurs aux travaux de l'Académie. Et les choses ont sensiblement évolué par la suite, c'est-à-dire que l'école a accompagné le développement de services publics nouveaux dans le domaine des bibliothèques, dans le domaine des archives et dans celui des musées. Et ces anciens élèves sont devenus progressivement l'essentiel, pas tous évidemment, mais l'essentiel des cadres de ces administrations issues de la Révolution. Et toute l'évolution du XIXe siècle a consisté à accompagner cette professionnalisation progressive du métier de conservateur. Le XXe siècle est allé au-delà, bien sûr, surtout à partir du moment où le ministère de la Culture a été créé. Mais c'est le moment aussi où sont apparus des débouchés nouveaux, notamment dans le domaine scientifique et universitaire, Un certain nombre de chartistes éminents sont devenus, dès l'entre-deux-guerres, peut-être même avant, mais essentiellement à partir de l'entre-deux-guerres, des historiens, des archéologues à l'université.
Vous avez mentionné que dès l'origine, l'École nationale des chartes a eu des liens étroits avec l'Institut de France, l'Académie, les académies, et notamment avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Aujourd'hui, peut-on considérer que ces liens sont des liens institutionnels, pérennes ? Quelle est la nature de ces liens ?
Nous avons des liens institutionnels avec l'Académie des inscriptions. C'est un lien privilégié, il est congénital et il correspond au fait que pendant longtemps, la spécialité chronologique de l'école a correspondu avec celle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais nous avons aussi des liens avec l'Académie des sciences morales et politiques pour les périodes suivantes. Moderne et contemporaine. Ces liens ont un caractère institutionnel puisque ces deux académies, selon la spécialité des chaires, ont un droit d'avis sur les propositions qui sont formées par le conseil scientifique de l'école sur les candidatures retenues et proposées au président de la République aux chaires de professeurs à l'école. Et de ce fait, ces deux académies sont représentées dans les deux conseils de l'établissement, conseil scientifique et conseil d'administration. Donc ce sont bien des liens institutionnels. Alors pérennes, ils sont aussi autant pérennes que peuvent l'être les institutions, mais il n'y a aucune raison que ces liens ne durent pas.
Oui, ils sont très anciens.
Ils sont très anciens.
Et ils sont toujours actuels. Quelles sont aujourd'hui donc les principales missions de l'École des chartes et quel est son statut, enfin un statut de grande école, mais je crois relié désormais à d'autres écoles et universités au sein d'un PRES. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à la fois sur les missions et le statut et l'organisation de l'école ?
L'école est ce que l'on appelle en jargon administratif un grand établissement, c'est-à-dire c'est un établissement public de type particulier, à vocation d'enseignement universitaire. Le panorama universitaire est en train de changer très vite puisque ces établissements ont vocation à passer aux responsabilités et compétences élargies, ce qui leur donne une autorité complète sur la masse salariale. Ce n'est pas encore le cas de l'École des chartes, mais on peut espérer que à court ou à moyen terme, cette mission pourrait être, cette responsabilité pourrait être confiée à l'école. Il se trouve aussi que dans le cadre du panorama de rassemblement des établissements universitaires, l'école appartient, comme vous l'avez indiqué à l'instant, d'une part au PRES ESAM, dans lequel se trouve d'ailleurs une seule université, Paris 1, et un certain nombre de grands établissements. Elle appartient également à l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet, au même titre que l'École des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, etc., les FEO.
Peut-être simplement pour nos auditeurs, pourriez-vous expliciter ce qu'est un PRES ? C'est une notion un petit peu nouvelle, une entité nouvelle. Peut-être simplement en quelques mots.
En deux mots, c'est une institution nouvelle qui a été créée pour rassembler autour d'un projet commun que l'on appelle IDEX, Initiative d'Excellence, un certain nombre des établissements, de façon à les conduire non pas à se rapprocher au point de créer une fusion institutionnelle, mais à développer une subsidiarité, une synergie beaucoup plus efficace.
Bien, ça se situe dans le cadre de la,
et lisible sur le
de
plan
la réforme récente des universités. Et donc, ce PRES, qu'elle appartient, l'École nationale des chartes, est celui de Paris 1.
Voilà.
Je crois pareil en Sorbonne.
Hautes études, Sorbonne, arts et métiers.
Revenons donc aux missions de l'École des chartes. Bon, évidemment, c'est une mission de formation en premier lieu. Vous avez évoqué les différents métiers en début d'émission. Le métier d'archiviste paléographe, je crois, est au cœur de vos formations. Quel est le mode de recrutement de ces étudiants ? Est-ce que pour les parents d'élèves qui nous écoutent, les parents d'étudiants, à qui vous adressez-vous au niveau de ce concours ? Est-ce que ce sont à des élèves d'Hippocagne, Cagne ? Enfin, quel type de formation faut-il avoir pour préparer ce concours ? Quel est le contenu ensuite des enseignements de l'école ? Ces enseignements ont certainement évolué donc pour s'adapter à la modernisation des métiers et notamment à la numérisation, j'imagine.
Alors d'abord, on ne peut pas parler de métier d'archiviste paléographe, c'est un diplôme. Diplôme d'archiviste paléographe. Il peut y avoir un métier d'archiviste, conservateur d'archives, si vous voulez, conservateur des bibliothèques, conservateur de musées, conservateur de l'archéologie. L'école dispense à ses élèves, à la fin de sa scolarité, le diplôme d'archiviste paléographe. D'ailleurs, la liste des archivistes paléographes est prononcée chaque année à la séance publique de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'école recrute des lycéens qui sont passés par l'une des deux voies suivantes, soit par une préparation spéciale qui se trouve dans un certain nombre de lycées, en particulier le lycée Henri IV à Paris ou le lycée Pierre de Fermat à Toulouse, et encore quelques autres, soit par ce que l'on appelle aujourd'hui la BEL, la Banque d'épreuves littéraires, qui est une structure d'épreuves qui a été créée pour faciliter le travail des lycéens, d'ailleurs, qui permet de passer d'un seul coup plusieurs concours, en particulier les écoles normales supérieures et l'école des chartes. Donc, l'une ou l'autre de ces voies conduit à l'école. Cette formation, comme toutes les formations aux grandes écoles, dure 2 ans, éventuellement une troisième année si le candidat n'a pas été reçu immédiatement. Et une fois entré à l'école, il est confronté à une scolarité qui va durer 3 ans, scolarité qui peut être suivie d'une formation de stage plus longue. Au cours de ces 3 ans, l'élève, puisqu'il s'agit d'un élève, on recrute d'ailleurs des élèves qui portent le statut d'élève fonctionnaire, puisqu'ils sont recrutés pour exercer par la suite une mission de service public qui était confiée à l'école dans le domaine de la conservation. Ces élèves, donc, sont confrontés à 2 tâches, essentiellement, au cours de leur scolarité, suivre un certain nombre de cours, avec succès, sur lesquels on reviendra, et préparer, rédiger une thèse qu'ils soutiendront. Cette thèse, c'est un travail de recherche sur une documentation inédite et qui doit se présenter comme les travaux universitaires classiques, en particulier les doctorats, si vous voulez. La très bonne thèse, c'est celle dont la présentation formelle et intellectuelle justifie qu'elle soit immédiatement publiée. Ça arrive de temps en temps. Pour ce qui concerne les études suivies, alors c'est un système qui dure 3 ans, avec un tronc commun dès la première année, des spécialisations progressives, par exemple, celui qui envisage la carrière des bibliothèques va se spécialiser en histoire du livre, c'est-à-dire de l'imprimé, de l'estampe, de l'image. Celui qui va se spécialiser plutôt vers une carrière de conservateur d'archives s'orientera vers une formation en histoire des institutions. C'est indispensable pour connaître la nature de la personne qui produit l'archive. Il va s'intéresser également aux nouveaux modes de production de l'information, les supports immatériels de l'information. Et les uns et les autres, d'ailleurs, vont s'intéresser aussi aux sources audiovisuelles. Ceux qui souhaiteront se présenter plutôt en direction de l'archéologie ou des musées recevront une formation en plus dans le domaine de l'histoire de l'art. Voilà, donc c'est un système de tronc commun et de spécialisation en fonction de la carrière que l'on envisage de poursuivre. Alors évidemment, l'objection, c'est que lorsqu'un élève rentre à l'école, il n'a pas nécessairement la maturité ni fait des choix définitifs. Donc on peut supposer qu'il est capable d'évoluer, de changer d'avis, c'est possible. Bon, les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre et on trouve un certain nombre de candidats qui présentent plusieurs concours en même temps, qui quelquefois en ont plusieurs aussi en même temps.
Ces élèves fonctionnaires sont, je crois, rémunérés dès leur entrée à l'école. Combien sont-ils chaque année ?
Alors, ça a dépendu en fonction des périodes. À la fin des années 1980, les élèves fonctionnaires étaient au nombre de plus de 40. De 40 à 45. Leur nombre a progressivement diminué. L'an dernier, nous en comptions encore 25. Et cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur et le budget ont décidé de réduire drastiquement ce nombre d'emplois en le ramenant à 20. Ce qui pose d'énormes problèmes parce que vous avez des élèves qui rentrent en classe préparatoire à l'instant X et qui découvre que 2 ans plus tard, les espoirs sur lesquels ils fondaient leur carrière ont diminué de 25%. Voilà, c'est un problème difficile à régler.
Donc c'est un concours extrêmement sélectif, j'imagine.
Par la force des choses, c'est un concours sélectif parce qu'il y a peu de candidats. Oui, il y a peu de candidats parce qu'il y a peu de postes. Et pourquoi y a-t-il peu de postes ? C'est que les besoins, en termes quantitatifs, pourrait évoluer. Bon, certains considèrent qu'on a moins de besoins en conservateur de bibliothèque qu'à une certaine période. Et puis, il y a aussi les moyens en face, évidemment. Si le budget d'État n'a pas les moyens d'ouvrir des postes à la loi de finances de conservateur d'État, on ne peut pas recruter. Il y a une autre voie éventuelle, qui est la fonction publique territoriale.
Oui, qui, elle, recrute, enfin,
qui
depuis quelques années.
Ouais, qui peut recruter.
Je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre cette émission dans quelques instants.
Installez-vous à la table de Canal Académie. Découvrez nos émissions en compagnie d'Hervé Tisse avec sa cuisine moléculaire. Pierre Feillet vous livre 5 scénarios possibles pour votre assiette en 2030. Jean-Marie Bourg pèse le pour et le contre des oméga-3. Et Robert Anton vous aide à y voir plus clair sur des compléments alimentaires. Sans oublier la chronique gastronomique de Jean Vito.
Nous reprenons le fil de notre émission avec M. Jean-Michel Legnaud, directeur de l'École nationale des chartes, qui évoque l'émission et le rôle de cette grande école. Monsieur Legnaud, vous avez évoqué la formation au diplôme d'archiviste paléographe, le tronc commun, les différentes spécialités. Pouvez-vous nous dire un mot des masters et doctorats qui ont, je crois, été plus récemment créés au sein de l'École nationale des chartes ?
Alors effectivement, à côté de la formation des élèves fonctionnaires, nous avons mis au point, il y a quelques années, deux autres ensembles d'étudiants, l'un qui se destine au master et les autres au doctorat. Pour ce qui concerne le master, il s'agit de former des étudiants qui sont sélectionnés sur dossier après entretien, essentiellement à l'application des nouvelles technologies du numérique au métier de la conservation et de l'histoire. Nous avons une vingtaine d'étudiants en master au total. Et puis, nous avons maintenant, en rapport avec les écoles doctorales d'histoire de Paris 1 et de Paris 4, nous avons regroupé une quinzaine de doctorants qui disposeront, après soutenance, d'un doctorat qui sera dispensé sous double sceau, donc le sceau de l'École des chartes.
C'est au fond une diversification.
C'est une diversification, c'est un service complémentaire que l'on peut rendre sur notre structure et notre budget à la société en dispensant une formation de qualité à un groupe d'étudiants qui vient s'ajouter à celui des élèves.
Au-delà de la mission de formation de l'École nationale des chartes, il y a, je crois, aussi au sein de votre école un centre de recherche et un dispositif d'édition. Vous diffusez les travaux des chercheurs au travers de publications et vous êtes un acteur majeur dans la recherche historique. Alors, pouvez-vous nous dire brièvement quels sont les principaux axes de recherche au sein de l'école ? Et aussi la politique éditoriale que vous développez à l'heure actuelle.
Je dirais que d'abord, les principaux chercheurs de l'école, ce sont ses élèves, puisque chaque année, 25 thèses sont soutenues dans des domaines les plus divers, concernant les 2 millénaires d'après le Christ. Donc, ces thèses font l'objet d'une sorte de publication sous forme de résumé, ce que l'on appelle les positions de thèse, ce qui permet déjà d'en connaître l'essentiel. Et lorsque ces travaux ont atteint au plan formel leur forme définitive, ils peuvent être publiés dans les collections de l'école. On trouve aussi dans les collections de l'école des actes de colloque qu'elle organise. On organise un nombre substantiel. Et on peut trouver aussi d'autres travaux de fond qui sont dirigés par leurs professeurs. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts. Ce sont 8 volumes qui sont parus dans ces collections-là. Donc l'école, depuis longtemps, a une politique éditoriale qui n'est pas considérable, mais enfin qui est tout de même significative. C'est une politique sur support papier. Bien. En même temps, elle entend développer une politique dans le domaine du numérique, ce qu'elle a déjà commencé à faire. Et ce que nous souhaitons, ce que je souhaite d'ailleurs pour ma part, c'est que dans les années qui viennent, on puisse se lancer dans des publications qui soient en même temps sur support papier et sur support numérique, de façon qu'on n'ait pas à choisir le mode de diffusion. Et je pense que ça permettra d'abord de régler un certain nombre de problèmes, de tous ordres, des problèmes techniques, des problèmes psychologiques et des problèmes scientifiques.
Concrètement, comment accéder à ces publications, qu'il s'agisse des ouvrages papier imprimés ou bien des publications électroniques? Est-ce que c'est sur le site de l'école?
Pour l'électronique, oui. Pour le papier, nous avons des diffuseurs qui diffusent sur leur catalogue nos travaux. C'est pour l'étranger la librairie Dro, et pour la France, ce sont les éditions Champion. J'ajoute à cela qu'il ne faut pas oublier que le comité des travaux historiques et scientifiques est rattaché à l'école des chartes et que le comité a pour mission de remplir une activité éditoriale de longue date, enfin, depuis Guizot, enfin, depuis la monarchie de Juillet, et son catalogue est aussi assez substantiel.
Le catalogue est-il également en ligne? Peut-on le consulter?
On peut le consulter sur support papier. C'est un début. Nos diffuseurs, Champion et Dro, font tout de même leur travail correctement et diffusent assez largement auprès de leurs clients, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Les bibliothèques diffusent les catalogues.
Je vous demande ces précisions pour les auditeurs qui seraient intéressés par les sujets.
Et on trouve aussi sur... actuellement, on ne le trouve pas, parce que le site de l'école est en réflexion, mais on trouve en principe sur le site de l'école les principales indications concernant les publications de celle-ci.
Je vous en remercie. Alors, l'École nationale des chartes, donc 19 rue de la Sorbonne, dispose d'une bibliothèque tout à fait exceptionnelle qui réunit, je crois, plus de 150 000 ouvrages, dont certains sont uniques en France. Quel type de livres et documents peut-on y trouver et sont-ils en libre accès pour le public ?
Alors d'abord, la bibliothèque de l'école est installée au 19 rue de la Sorbonne, certes, mais en 2015, cette bibliothèque aura déménagé. Elle sera installée dans le quadrilatère Richelieu, au 58 rue de Richelieu, non loin des collections de l'Institut national d'histoire de l'art et des départements patrimoniaux de la Bibliothèque nationale de France. Enfin, actuellement, cette bibliothèque se trouve au 19 rue de la Sorbonne. Sa principale caractéristique est que les livres sont en accès direct. Vous travaillez au milieu des livres. Personne ne vous apportera les ouvrages. Vous avez des moyens électroniques, des consoles pour chercher la cote. Et vous allez vous-même prendre le livre. Vous pouvez, le cas échéant, comme certains lecteurs, faire ce qu'on appelle le butinage et passer d'un rayon à l'autre à la recherche du plaisir d'une découverte aléatoire. Donc ça transforme considérablement les méthodes de travail, si vous voulez. Un certain nombre d'établissements sont organisés de cette façon, par exemple la bibliothèque de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, mais à la Bibliothèque nationale de France, ce n'est évidemment pas possible. Bon, cette méthode de travail, cette façon de faire qui est extrêmement efficace, n'est pas possible si le nombre de lecteurs est trop considérable. Pendant longtemps, les lecteurs étaient constitués des élèves et des anciens élèves, plus quelques amis, si vous voulez. Depuis quelques années, nous avons considéré que nous avions un devoir social d'ouverture à un public un peu élargi, dans la limite de la disponibilité des places de lecture et dans la limite aussi posée par la sécurité des collections. Enfin, nous avons tout de même élargi d'une certaine façon notre public de lecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette bibliothèque de plus intéressant ? Je dirais qu'il y a d'abord un fond qui remonte au XIXe siècle, puisque l'école a été bénéficiaire, comme d'autres institutions, du dépôt légal des grandes publications savantes. On les trouve là. On ne les trouve pas n'importe où, parce que ça coûtait déjà très cher au XIXe siècle. On les trouve là, et les grandes publications, par exemple, du Comité des arts et monuments, ces grandes monographies, elles sont là. On trouve aussi un rassemblement considérable de périodiques qui ont été publiés par des sociétés savantes parisiennes et locales. On trouve aussi un nombre considérable de tirés à part qui ont été donnés par divers chercheurs, ce qui facilite considérablement la recherche, puisque ces tirés à part sont indexés. Et puis, on trouve évidemment le fonds commun qu'on trouve dans une très très bonne bibliothèque spécialisée, dans le domaine de l'histoire des langues anciennes, c'est-à-dire le latin et les langues romaines, dans le domaine de l'histoire de l'art. Alors, quelles sont les spécialisations de la bibliothèque ? Eh bien, ce qu'on trouve plus difficilement ailleurs, c'est ce qui concerne ces spécialités disciplinaires. La paléographie, la diplomatique. Nous avons eu pendant un long moment un fonds d'histoire du droit assez substantiel. Nous avons de très très grandes monographies dans le domaine de l'histoire de l'architecture médiévale. Voilà quelles sont les principaux, les choses que l'on peut trouver plus facilement qu'ailleurs.
Et ces ouvrages, par exemple, concernant l'architecture médiévale, concernent principalement la France ou bien aussi des pays européens ou d'autres?
Oui, c'est essentiellement la France. Alors, il faut dire aussi, de toute façon, que cette bibliothèque a quand même connu des heures et des malheurs. C'est-à-dire qu'à certaines époques, les crédits d'acquisition étaient extrêmement limités, donc elle ne s'est pas beaucoup enrichie. C'était le cas pendant certaines périodes du XXe siècle. Et comme l'école avait reçu pour mission de participer à la fabrication de l'histoire de France, dans le projet issu de la Révolution française, on constitue l'État-nation sur la base d'une sorte de contrat dont fait partie une conception artificielle de l'histoire, et l'École des Chartes est donc appelée à participer à cette constitution artificielle de l'histoire, on ne trouve pas de ce fait, effectivement, beaucoup d'ouverture, tout simplement, vers l'étranger.
Certains de ces ouvrages, comme je le disais, sont uniques, donc sont très précieux. Vous lancez, je crois, actuellement une opération de mécénat pour restaurer certains de ces ouvrages précieux, anciens. Pouvez-vous nous en expliquer les finalités de cette opération de mécénat et dire à nos auditeurs, au fond, à qui elle est destinée et comment éventuellement y participer?
Effectivement, ça me permet d'apporter un élément complémentaire au fil du temps, et en particulier au 19e, sous le Second Empire, et au début du 20e siècle. Un certain nombre de mécènes ont fait don de collections d'ouvrages allant de l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du 18e siècle. Nous avons tout de même un fonds substantiel de livres anciens qui résulte moins d'achats que de dons, et qui d'ailleurs participe à l'enseignement dans le domaine de l'histoire du livre. Ces ouvrages sont généralement des ouvrages qui ont été reliés plein de pots au XVIIe, au XVIIIe siècle. Ils n'ont pas été conservés de façon dramatique, si vous voulez, mais avec le temps, ils n'ont quand même pas été très bien conservés. Ils ont souffert de conditions hygrométriques un peu sévères. Beaucoup d'entre eux ont été insolés, plus ou moins. La perspective du déménagement, de la mise en caisse, de la sortie des caisses, de la réinstallation dans de nouvelles étagères soulève le problème de leur fragilité.
Et oui, dans la perspective donc du déménagement dans
2015.
En 2015, ouais. Rue de Richelieu.
Voilà. Et je souhaite qu'on puisse les déménager dans les meilleures conditions possibles. Alors, un certain nombre de travaux de restauration de ces reliures a déjà été entrepris au fil du temps, mais ces travaux ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. C'est difficile parce que les relieurs ne travaillent pas très vite, ils ne sont pas très très nombreux. Néanmoins, nous pensons qu'il est indispensable de restaurer l'essentiel de ces reliures avant notre départ. Et une première estimation, très très sommaire d'ailleurs, et probablement très en deçà des besoins, nous conduit à considérer qu'il nous faut rapidement un crédit de 200 000 euros, ce qui est une dépense énorme, dans la mesure où nous avons en même temps à nous confronter aux frais de déménagement, aux frais d'installation dans les nouveaux lieux. Nous avons pensé que des mécènes bibliophiles pourraient être intéressés à participer à cette entreprise de sauvetage de nos reliures. Nous avons fait un premier appel auprès de personnes physiques dans le cadre de certaines sociétés qui gravitent autour de l'école, mais nous allons aussi nous orienter en direction d'entreprises ou de, tant que les dispositions sur le mécénat sont encore en place, essayons d'en profiter.
Cette opération peut-elle aussi concerner les particuliers, les amateurs, les bibliophiles éclairés?
Voilà, le problème de l'école, enfin le problème, il se trouve qu'à l'école aujourd'hui, on a des étudiants qui sont payés par l'État comme élèves fonctionnaires, et des étudiants en master qui paient leurs études pendant 2 ans. C'est une question en soi, cette confrontation. L'école normale supérieure s'est trouvée confrontée à ça suscite débat. Alors, évidemment, on ne peut que penser du bien d'une politique qui consisterait à développer des bourses pour asseoir plus confortablement la scolarité des étudiants. Et on pourrait espérer, on est en droit d'espérer, on n'a pas encore été très actif dans ce domaine, parce que nous le découvrons en fait, nous découvrons cette question. Il serait extrêmement intéressant qu'on puisse trouver des mécènes qui puissent faciliter par une bourse les études d'un étudiant en master méritant.
Oui, alors là, l'objet est différent. Il ne s'agit plus de sauver les reliures, mais d'aider les étudiants.
C'est un autre type.
Voilà. Bien, donc chacun, je pense, pourra trouver sur le site de l'École nationale des chartes des éléments expliquant comment participer à ce mécénat, oui. Qu'il s'agisse de la bibliothèque, des ouvrages ou des étudiants. Monsieur Legnaud, quelle est aujourd'hui votre ambition pour l'École nationale des chartes et quels sont les principaux défis auxquels elle doit répondre? Le 21e siècle,
oui,
c'est-à-dire
oui,
maintenant.
Dans 10 ans, dans 8 à 9 ans, dans 2021, nous fêterons le bicentenaire de l'établissement. Le premier défi consiste à faire en sorte que l'administration de cette école soit réellement performante, moderne et adaptée au contexte politique et budgétaire de notre pays. Le deuxième défi consiste à offrir aux élèves et aussi aux étudiants en master une scolarité qui soit véritablement adaptée aux besoins des employeurs. Et qui soit pas seulement adaptée aux besoins des employeurs, mais qui soit aussi tout de même une oasis intellectuelle, un véritable moment de formation. Il faut que les uns et les autres puissent parcourir les 3 ans d'études, puissent faire leur thèse ou leur mémoire dans des conditions d'oxygénation mentale maximum. C'est toujours difficile parce que le système des études, dans quelque école que ce soit, est toujours contraignant. Donc voilà, améliorer en permanence le système des études. La troisième ambition consiste, et c'est un corollaire de la précédente, à relever le défi que pose la nouvelle façon d'engranger l'information. Je fais allusion au numérique. La dématérialisation du support de l'information va poser des problèmes considérables, non seulement en termes sociétaux, mais aussi en termes scientifiques. Comment utiliser les informations sur support numérique qui seront produites par les administrations d'aujourd'hui lorsque, dans 50 ans, on voudra faire l'histoire de la période actuelle. C'est un problème. Donc nous avons à nous investir de façon active dans le domaine du numérique. Et puis ma dernière ambition, c'est une ambition qui est à court terme mais qui est essentielle pour nous, c'est de réussir le déménagement de l'école et de sa bibliothèque, de faire en sorte que son installation au 58 et au 65 rue de Richelieu se fasse dans les meilleures conditions, que les élèves, l'administration et les lecteurs s'y trouvent bien et qu'on y reste de ce fait le plus longtemps possible. Au moins un siècle, comme ça avait été le cas à la Sorbonne.
Merci Monsieur Legnaud pour ces précisions et cet éclairage sur cette grande école que nous connaissons mieux maintenant grâce à vous. Merci d'être venu à Canal Academy. Nous espérons avoir l'occasion de vous revoir sur d'autres sujets, concernant notamment certains de vos ouvrages. Je voudrais aussi rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent vous écouter dans des émissions d'avril 2006 consacrées à l'abbaye de Saint-Denis, de la Renaissance à la Révolution française et de 1814 à nos jours. Donc, je conseille à nos auditeurs qui s'intéressent à l'histoire de l'architecture d'écouter ces émissions. Et je vous dis donc à bientôt.
À bientôt.
Merci. Thank you.